Alors, je vous ai parlé, peut-être même trois dimanches, d'Élie. Voilà, sa foi, son travail, mais aussi ses combats, ses victoires. Je vais reprendre encore. L'Alexis, il a juste mentionné un petit mot comme ça. Nous a parlé de la marche spirituelle tous les jours et toute notre vie, comment marcher dans la foi, etc., dimanche dernier. Et ce matin, donc, mon intervention, je l'appelle Marchons dans la victoire. Marchons dans la victoire. Donc, marcher, c'est sûr, vous savez ce que ça veut dire marcher, mais dans les domaines spirituels, marcher, avancer, aller vers un but, nous avons un but. Voilà, il ne faut pas s'arrêter. Et c'est pourquoi je vais prendre encore un texte dans la parole de Dieu, de Premier Roi, donc Premier Livre de Roi, chapitre 19, Alexis va nous lire, voilà. Et donc le verset 7, on va commencer par le verset 7, voilà, et puis jusqu'à 18, donc 7, 18. Donc suivez bien, voilà, parce que je ne vais pas tout détailler, mais pour comprendre un peu la suite, voilà, c'est un fragment de l'histoire d'Élie, mais je vais retirer quelque chose de ce texte-là, et ensuite on va aller dans le Nouveau Testament.
L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit: Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et là, il entra dans la caverne, et il y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots: Que fais-tu ici, Élie? Il répondit: J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi, seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel dit: Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles: Que fais-tu ici, Élie? Il répondit: J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel lui dit: Va. Reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphas, d'Abel-Méola, pour prophète à ta place. Et il arriva que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu, le fera mourir, et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7 000 hommes pour ceux qui n'ont point fléchi le genou devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé.
Merci. Vous avez bien suivi cette belle histoire. Donc, Élie, après les combats qu'il avait et les victoires, vous avez compris, il se retrouvait dans un moment de faiblesse, de découragement. Il était donc devant un arbre. Voilà, un peu déçu, découragé, découragé peut-être de Dieu aussi. Et surtout, il avait la compassion pour Israël. Il était triste parce qu'il dit: Seigneur, tu vois, les Israélites ont abandonné ton alliance, se sont éloignés de toi. Et il était l'homme de Dieu, un prophète, porte-parole de Dieu pour ce peuple. Et il était tellement interpellé qu'il s'est assis devant un arbre. Et puis finalement, Dieu lui a parlé. Et il lui a donné à manger. Enfin, il a organisé la nourriture pour lui. Et il lui a dit, lève-toi, donc deuxième fois, lève-toi. Parce que le chemin devant toi est long. Le chemin est long. Et finalement, il a fait un schéma. Il a marché 42 jours. 40 jours et nuits. Donc c'était long, hein, marcher. Voilà, dans des conditions pas faciles. Là-bas où c'est montagneux, il y a beaucoup de sable, etc. Il n'y avait pas de route comme actuellement. Il a marché 40 jours. Et puis il arrive dans un endroit, là, la montagne de Dieu. Et il se cache dans une caverne. Dans une caverne, c'est ça? Il se cache là, à nouveau, plus de force. La fatigue. Et à nouveau, Dieu lui parle. Donc vous voyez, un homme de Dieu remarquable, mais il y avait aussi des faiblesses. Il était un homme. Il devait affronter les difficultés, les problèmes, les combats, etc. Mais le fait qu'il avait un cœur pour Dieu, il servait Dieu, il avait une relation personnelle, et ça se travaille, c'est toute notre vie, c'est un style de vie, selon la parole de Dieu, selon les alliances de Dieu à l'époque, d'accord? Il avait une relation, et bien Dieu l'a pas oublié, malgré qu'il a boudé un peu. Dieu s'est approché vers lui d'une façon par ange, et lui a parlé, etc. Que fais-tu ici? Mais pourquoi tu t'es arrêté? Mais il faut continuer. Mais qu'est-ce qui se passe, lui? J'essaye de comprendre un peu cette conversation Dieu et Élie. Donc, vous voyez, ensuite, oui, donc il s'est expliqué, tu vois, Dieu, qui se passe? L'Israël s'est éloigné de Dieu, ils ont abandonné ton alliance, etc. Et moi, je suis là juste pour te louer, oui, voilà. Mais Dieu voulait lui dire, tu n'es pas juste pour toi, tu es aussi pour les autres, tu es là aussi pour servir les projets de Dieu. Et il dit, tu vois, Seigneur, ils ont tué tous les prophètes. Je reste tout seul. Mais qu'est-ce qui fait que je fasse tout seul? Et puis, le verset 18 nous dit, oh non, il y a 7000 personnes qui n'ont pas servi les dieux de Baal. Tu n'es pas tout seul. Il y a 7000. Et c'était quelque chose de formidable. Juste avant, voilà, Dieu, Élie qui parle avec Dieu. Après tout ça, Dieu lui dit, lève-toi, vas-y, tu vas oindre le roi de Syrie, le roi de Syrie, le roi d'Israël et ton successeur, celui qui viendra derrière toi, le prophète qui sera derrière toi. Tu vas le oindre. Alors ici, vous voyez, il se trouve dans un moment des difficultés, des découragements, des tristesses, des faiblesses. Mais il avait une relation personnelle avec Dieu. Dieu se sert de lui. Bon, maintenant tu lèves la tête. Maintenant tu marches. Maintenant tu vas vers le roi. de Syrie, le roi d'Israël, pour le rendre, pour leur donner l'onction. Alors, pour donner l'onction, ce n'est pas tout simplement la parole, toucher la personne. C'est une autorité surnaturelle, spirituelle, qui était sur lui pour communiquer sur ses hommes pour accomplir les projets de Dieu. Alors, vous savez, ici, pendant quelques jours, j'ai pensé beaucoup à lui. J'ai pensé à ma vie aussi. Je ne suis pas du tout... Je ne fais pas une comparaison avec Élie, pas du tout, mais lui était un homme comme toi et moi, vous savez. Et voilà, j'étais aussi perturbé. Je ne dis pas que j'étais découragé, voilà, j'ai toujours repoussé, rejeté ce mot, le découragement. Mais voilà, j'avais un rendez-vous et je suis allé chez un spécialiste pour ma santé, pour la suite de mes jambes et tout ça. Et voilà, tout ça, on discute bien, on parle bien, et puis voilà, il me balance comme ça pour dire, voilà, si on fait rien, ben vous allez vous retrouver dans une chaise roulante. Peut-être dans un mois, peut-être dans 5 ans, peut-être, on ne sait pas. Très bien, donc il faut une opération. Moi, j'étais d'accord, pas Christian. Moi, j'étais d'accord, donc il m'a envoyé à nouveau chez un spécialiste, voilà, pour un examen détaillé. Voilà, il m'a piqué partout, dans les jambes, partout, voilà. Ah, oh, Seigneur, est-ce que j'ai besoin de ça? Et à la fin, il nous dit, vous savez, pourquoi les chirurgiens vous envoient chez moi? Et puis moi, j'ai dit oui, parce que voilà, avant l'opération, il veut savoir d'autres détails. Ce spécialiste nous dit, ça ne sert à rien. L'opération, si le chirurgien vous opère, ça ne sert à vraiment rien. Boum, une claque. Quoi? J'étais déjà pris, je vais récupérer mes jambes. Je vais annoncer l'évangile encore dans d'autres pays. Bon, je passe les détails. On est revenu à la maison, mais j'étais complètement fatigué, comme Élie. J'ai presque boudé devant le Seigneur. Et le Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant? Voilà, tous ces résultats sont comme ça. Et puis, juste un peu plus tard, il y a quelqu'un qui sont dans la maison. Sans prévenir. Un couple. Ah oh bon, ça va? On vient faire une visite pastorale. Ah bon? Très bien. Ah ben, si vous êtes venu rendre visite pastorale à un pasteur, ben, le pasteur est d'accord pour que vous puissiez prier pour lui. C'est moi. Va prier pour moi. Et puis ça m'a encouragé à nouveau. Christian, elle a envoyé un petit mot dans toute la famille. C'est un peu sa mission auprès de moi. Il y a ça, 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 ça. Et puis toute la famille, tout de suite, ça téléphone, tout de suite, me soutient. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as fait? Et puis donc... Entre deux, j'apprends une nouvelle. On me dit, voilà un couple qui est là dans la région. Je ne vais pas vous dire quelle ville, mais de 400 kilomètres d'ici, donc pas quelqu'un d'ici. Est-ce que tu es d'accord de le rencontrer? Oui, pas de problème. Et puis ensuite, on nous a invités au resto hier soir. Et je demande, on était à 6. Comment ça va? nous sommes complètement perdus, désespérés. C'était comme ça. Un couple, une cinquantaine d'années. Pour nous, c'est jeune. Il y a 50 personnes autour d'eux. Et une église derrière. On est complètement perdu. Alors en moi, ça bouillant. Et Seigneur, et j'ai commencé à parler. Je les ai écoutés pendant 15 minutes. Que des choses négatives, voilà, pas sur quelqu'un d'autre. Et puis ensuite, voilà, j'ai commencé à parler. Et j'ai vu que les paroles qui sortaient de ma bouche détruisaient tout ce qui était négatif. Et je leur ai dit, on est là, on va vous accompagner. Vous n'êtes pas tout seul, vous avez les enfants. Vous avez les enfants! Pour nous, c'était toujours la priorité. Ou la priorité des priorités, bien sûr. Et vous avez 50 personnes. Une église, les gens. Ils se retrouvent devant quelqu'un qui est complètement déboussolé. Et puis voilà, on a remonté la foi, ils n'ont rien dit. Ils ont juste écouté. Et puis quelques minutes après la conversation, j'ai dit, vous signez. Ça, c'est ma façon un peu de voir les choses. Vous vous engagez, on est là avec vous. Moi, on m'a aidé, on m'a accompagné, on a payé le prix pour moi, je suis prêt à payer le prix pour les autres. Amen. Et je ne suis pas tout seul, nous sommes une équipe, vous avez entendu Thierry. Pourquoi Thierry il est là? Parce qu'on est ensemble. Parce que lundi, quand on est ensemble en équipe, nous prions pour tout ça. Chacun est dans son ministère. Alors pourquoi je vous raconte ça? C'est que moi-même, je suis passé par... J'étais secoué, et puis voilà, le Seigneur me dit, marche dans la victoire! Ne t'arrête pas! Et j'ai pris ma canne et j'ai dit, Seigneur, tu veux que je prêche l'évangile avec la canne? Non! Et ma femme, elle m'a dit, calme-toi! Ah, Seigneur est grand! Qu'est-ce que je suis heureux! Ce matin, Alexis nous a conduits dans la prière, avant le culte. Et nous a dit, prions pour ceux, pour ceux qui sont captifs. Mais nous, nous étions tous captifs. Nous étions tous en Égypte, dans la prison spirituelle. Dieu nous a libérés. Et il nous a fait passer de la mort à la vie. Et aujourd'hui, nous avons l'espoir, l'espérance, la vie éternelle. Amen. Alléluia. Donc, je vais aller plus loin dans le Nouveau Testament. Je vous ai donné mon témoignage actuel là. Marc chapitre 16, versets 15 à 18. Marc 16, 15 à 18 nous dit, puis il leur dit, qui? Jésus, hein? Jésus passait un moment avec ses disciples, d'accord? Et puis ensuite, il dit aux disciples, allez par tout le monde. Allez marcher et avancer. Ça voulait dire ça. Amen. Ne restez pas boudés. Ne restez pas découragés. Ne restez pas sur place parce que moi, je vais vous quitter. Non! Je serai avec vous. Donc, il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. À toute la création. Amen. Toute la création, peu importe la couleur, peu importe la nationalité, peu importe la langue, voilà, nous sommes la créature de Dieu. Amen. Donc, celui qui croira et qui sera baptisé, baptisé, donc baptême, c'est plonger. Baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Tout simplement, il n'y a personne qui nous condamne, mais on se condamne nous-mêmes. Si on ne croit pas, on est condamné. Mais si on croit, on est sauvé, d'accord ? On prend le baptême, on s'engage, on prend un engagement pour l'éternité. Donc il y a toute une vie, vous voyez ? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Moi, je n'ai pas peur des démons. J'étais même à l'hôpital, au lit, il n'y a pas longtemps, et Satan s'est approché vers moi pour me parler, pour me dire, tu vas mourir, c'est fini pour toi. Tu ne vas pas pouvoir prier pour les autres. J'ai juste levé la main et toutes ces puissances diaboliques sont parties. Alléluia. Même si j'avais pas beaucoup de force physique. Donc, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. On n'a pas de problème, nous, avec tout ça. On est charismatique. On vit normalement. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alors Thierry, nous avons besoin beaucoup de prières dans ce domaine-là, c'est vrai. Dieu fait des choses par-ci, par-là, des petites choses. Voilà, mais combien nous avons besoin de prier Dieu pour que nous puissions mettre en pratique cette parole, pas juste prêcher, parler, mais aussi apporter le soutien, la guérison, la libération pour ceux qui sont malades. Alléluia. Ensuite, c'était ça, oui, d'accord. Actes des apôtres, voilà, donc vous voyez, allez, c'est-à-dire marchez, ne vous arrêtez pas, continuez. Et ensuite, les Actes des apôtres, premier chapitre, nous dit la même chose. Jésus a passé des moments forts avec les disciples. Et puis il les a réunis, allés à Jérusalem, et ensuite, quand ils étaient à Jérusalem, comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Vous voyez, il y a des moments d'attente aussi. Ne vous s'éloignez pas de Jérusalem, mais attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Donc, restez à Jérusalem. Attendez, premier jour, deuxième jour, septième jour, huitième jour, il n'y a rien qui se passe, neuvième jour, il n'y a rien qui se passe, le neuvième jour, neuf jours et demi, il n'y a rien qui se passe, dix jours. La puissance de Dieu, la promesse de Dieu se manifestait sur 120 personnes à Jérusalem. Ils étaient en attente. Il y a des moments d'attente. On ne sait pas ce qui va se passer. Mais on attend la promesse de Dieu. Quelque chose surnaturel, quelque chose qui dépasse notre intelligence, intellect, etc., mais quelque chose qui se passe. Voilà, donc vous avez vu comment ça s'est passé après. Je ne vais pas rester longtemps, mais c'est juste pour vous dire. Voilà, ensuite, ils sont partis. Voilà, il y avait un schéma. Ils sont partis, ils marchaient, ils annonçaient la bonne nouvelle. Et heureusement, Pierre, s'ils n'avaient pas écouté, ben nous, aujourd'hui, on ne serait pas là. Que penses-tu? Parce qu'ils ont obéi. Ils ont mis la parole de Jésus en pratique. Ils se sont mis en marche. Les siècles passent, les années passent. L'évangile est prêché. Et aujourd'hui, Jason t'est sauvé. Tu es conscient que t'es sauvé? Oh là là. Si quelqu'un n'est pas encore sauvé ce matin, parmi nous, quelqu'un qui écoute, qui n'a pas encore une conviction, eh bien, prends une décision aujourd'hui. On ne sait pas ce qui va se passer demain. Prends une décision aujourd'hui, comme certains parmi vous, vous avez déjà pris. Vous êtes engagés et vous avez accepté Jésus, le Fils de Dieu, Dieu lui-même, qui est notre Sauveur, et il nous conduira sur ce chemin qui nous mène à la vie éternelle. Amen. 2 Corinthiens, chapitre 12, le verset 9 nous dit, et il m'a dit, ma grâce te suffit. Dites les uns aux autres, la grâce de Jésus te suffit. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse, dans la faiblesse. Et c'est pour ça que je vous ai dit, je vous ai parlé de mon témoignage, de ma faiblesse, juste pendant quelques heures. Et puis là, je vois, ah, Paul pensait à moi aussi, mais lui-même, il est passé par des moments compliqués, difficiles. Et il dit, ma grâce te suffit, car ma puissance, donc, de Jésus, s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses. Il était content de ses faiblesses, Paul. Qu'est-ce que vous pensez? On ne parle pas de péché, de faiblesse. De faiblesse, enfin que la puissance de Christ repose sur moi. Que la puissance de Christ repose sur nous. Aujourd'hui, ce matin. Amen. Voilà, nous sommes graciés. Passer de la mort à la vie. Et ça, c'est formidable.